Bonsoir. Présentation le 19 juin dernier par le professeur Évariste Beauchab et de son ouvrage intitulé « Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation ». Dans cet ouvrage, l'auteur pose la problématique de la coexistence dans une même constitution des dispositions constitutionnelles intangibles, c'est-à-dire celles qui ne sont pas susceptibles d'être modifiées et celles qui peuvent l'être. Comment analyser la problématique posée dans cet ouvrage? Pour en parler, nous recevons dans cette émission professeur Tivang Kalala. Il est professeur des droits publics à l'université de Kinshasa. Il est aussi président du parti politique Notre Beau Pays. C'est un parti proche de la majorité présidentielle. Bonsoir professeur Tivang Kalala.
Bonsoir Kim Mathieu.
Professeur Mathieu Kalele, il est professeur de sociologie à l'université de Kinshasa. Il est président du parti politique Front pour un nouveau type de Congolais, FNTC en sigle, parti proche, en fait parti de l'opposition. Bonsoir professeur Mathieu Kalele.
Bonsoir.
Et professeur Bob Kabamba, il est professeur à l'université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir professeur Bob Kabamba.
Bonsoir et bonsoir aux auditeurs et auditrices.
Patrick de Goma, au Nord Kivu, je suis d'accord avec la modification de la Constitution. J'encourage le professeur Évariste Beauchab pour la publication de ses livres. Pichu du Siro en province orientale, le titre de cet ouvrage est déjà mal choisi. Entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation, comme si on ne modifiait pas la Constitution, la nation allait périr. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Évariste Beauchab, ancien président de l'Assemblée nationale et professeur des droits, vient de publier un ouvrage intitulé « Entre révision de la Constitution et l'inanition de la nation ». L'apparition de ce livre aux éditions Larcier et sa présentation mercredi 19 juin à Kinshasa a suffi pour lancer la polémique en République démocratique du Congo et faire surgir des craintes sur une éventuelle tentative de révision de l'article 220 de la Constitution. Les grandes lignes de cet ouvrage avec Kelly Nkouté.
Selon la description qu'en fait l'auteur, ce livre est une porte ouverte sur l'avenir afin que la Constitution ne puisse se scléroser. Évariste Beauchab anticipe même ce qu'il qualifie, je cite, « des passions et réactions inexplicables », fin de citation, que suscite selon lui toute évocation de la révision constitutionnelle en Afrique subsaharienne. En Afrique, estime-t-il, la Constitution a acquis le statut d'une citadelle intouchable et pourtant les fortifications ne sont pas éternelles, avance-t-il. Elles sont toujours à refaire pour tenir compte de l'effet corrosif du temps sur tous les monuments. Ceci explique, selon l'auteur, l'inflation des dispositions constitutionnelles intangibles considérées à la fois comme l'une des caractéristiques pertinentes du nouveau constitutionnalisme africain et un moyen d'assurer l'alternance. L'auteur prévient, je cite, « Cet ouvrage est un outil critique des théories sur le pouvoir constituant et le pouvoir des révisions, mais aussi un instrument prospectif eu égard à la rétivité des dirigeants africains » difficilement conciliable avec l'impératif de la primauté du droit en démocratie. Il soulève aussi plusieurs interrogations qui, sans avoir trouvé des réponses définitives, ont néanmoins l'avantage d'inciter à la réflexion face au fétichisme et aux incantations magiques qui meublent les constitutions africaines, particulièrement celle de la République démocratique du Congo. La question qui demeure toutefois est celle de savoir à partir de quand une révision doit être qualifiée de totale, compte tenu de ce que celle-ci ne semble pas impliquer modification de toutes les règles constitutionnelles en une fois.
Merci, Kelly Nkouté, professeur Tivang Kalala. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'université de Kinshasa. Vous êtes aussi président du parti politique Notre Beau Pays. C'est un parti proche de la majorité présidentielle. Il faut reconnaître que la publication de cet ouvrage a suscité et continue à susciter un débat dans la société. Il pose cette problématique de la coexistence dans une même constitution des dispositions intangibles et celles qui ne sont pas qui peuvent être changées. Comment vous analysez cette problématique posée dans cet ouvrage du professeur Évariste Beauchab?
Oui, merci Guy Mathé. Le professeur Évariste Beauchab m'a fait l'honneur de pouvoir m'inviter le 19 juin. C'est un signe d'amitié et je le remercie pour ça. Il m'a invité pour assister au vernissage de son livre. J'étais donc dans la salle lorsque ce livre a été présenté au public. Le professeur Nyabirungu, le doyen de la faculté de droit, nous a présenté la synthèse du livre, le contenu, chapitre par chapitre. Après lui, mon collègue professeur Ngondankoy, de la même faculté, a donné une lecture critique, scientifiquement critique, une belle lecture percutante que j'ai beaucoup appréciée. Je félicite le professeur Ngondankoy d'ailleurs pour sa lecture critique de cet ouvrage. J'étais donc dans la salle. Je pense que le professeur Beauchamp doit être félicité. C'est un enseignant, c'est un scientifique. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des enseignants, des scientifiques qui écrivent des livres. Il a produit un ouvrage de réflexion juridique et politique. Et donc il faut le féliciter. Quant à savoir... Qu'est-ce, commentaire faut-il faire par rapport à ses idées, à certaines affirmations? Il l'a dit lui-même d'ailleurs dans le, la preuve est là.
La coexistence dans une même constitution, oui, des dispositions qui
justement,
sont intangibles,
la preuve est là.
Celles qui peuvent être modifiées.
Oui, la preuve est là, parce qu'il a suffi qu'il le mette cette réflexion sur la place publique, eh bien, ça suscite des passions, parfois des peurs irrationnelles dans l'opinion, n'est-ce pas?
Pourquoi irrationnelles?
Oui, parce qu'il y a des gens qui confondent la constitution avec la Bible. Dans la Bible, on nous dit on ne peut rien toucher, on ne peut rien ajouter dans la Bible. Et donc, or, la Constitution elle-même dit qu'on peut me réviser.
Mais la même Constitution prévoit des dispositions qui sont qualifiées comme étant verrouillées.
Oui, justement, nous avons dans notre pays, bon, il n'y a pas que ça. En France aussi, il y a une disposition du genre. Hein, on dit qu'on ne peut pas toucher à la forme républicaine de la France. Bon, ici chez nous, on a aussi ce type de disposition qu'on ne peut pas modifier. C'est l'article 220. Mais je vais dire ceci, Guy Maté, j'étais dans la salle. L'ouvrage est là. Je n'ai pas entendu ni le professeur Nyabirungu qui nous a présenté la synthèse de cet ouvrage, ni mon collègue professeur Ngondankoy, que je félicite pour sa lecture critique, je n'ai pas entendu ces gens dire que le professeur Beauchamp a demandé formellement, dans son ouvrage qui est là, il a demandé et suggéré qu'on puisse modifier l'article 220 de la Constitution. Attends, j'étais dans la salle du début à la fin, je ne sais pas où est-ce qu'il a écrit cela.
Après, là, il a eu une réflexion. La question qu'il pose, c'est pourquoi cet article est verrouillé. Voilà.
Oh non, mais écoutez, mais le peuple congolais a mis dans la Constitution, à l'article 220, pour dire que telle disposition, notamment le mandat du président de la République, il faut dire les choses très clairement, hein, qu'on ne peut pas modifier la durée des mandats ou le nombre de mandats. Je crois que c'est ça qui provoque une agitation dans l'opinion. Bon, c'est mis à l'article 220, c'est clair. Maintenant, le problème, à titre de réflexion, c'est une réflexion. Les gens peuvent se poser la question, disent, bon, est-ce que cet article 220 est éternel? Est-ce que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, est-ce que le peuple congolais lui-même, parce que c'est le peuple qui a mis ça là, est-ce que le peuple congolais lui-même ne peut pas un jour dire, écoutez, j'enlève cet article, parce que c'est lui le souverain, c'est lui qui a mis ça.
Même s'il faut les déverrouiller, c'est après 6 ans de l'existence de la Constitution.
Non, le problème n'est pas de dire si c'est une année ou c'est 2 ans ou 3 ans. Non, la question c'est une réflexion intellectuelle. Il y a un débat, même en France ou dans d'autres pays, où on dit, écoutez, est-ce que les dispositions qu'on ne peut pas réviser, est-ce que ces dispositions sont éternelles jusqu'à la fin des temps? Ou peut-être est-ce qu'un jour, le peuple congolais lui-même, qui a mis cet article-là, est-ce qu'il peut l'enlever? Mais c'est une réflexion. Les uns peuvent dire, non, pas question, ça c'est éternel. Bon, ils doivent donner leurs arguments. Il y en a qui peuvent dire, non, écoutez, mais un jour, on peut toujours modifier. Ils doivent donner leurs arguments. C'est un débat intellectuel et scientifique. Le débat deviendra sérieux, Guy Maté. Le débat, je ne vais pas me prononcer sur cela. Le débat deviendra sérieux le jour où le gouvernement de la République, ou les parlementaires, ou 100 000 Congolais signent une pétition et demandent qu'on révise l'article 220. En ce moment-là, il y aura du concret. Aujourd'hui, si vous me posez ma question, parce que c'est la question que vous me posez, je ne veux pas rester dans la rumeur. Rester dans les spéculations, n'est-ce pas, dans les procès d'intention. Je ne veux pas faire des commentaires sur des commentaires. Et donc, il faut attendre, Guy Maté, soyez patient, le jour, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas quand, si quelqu'un de courageux dans ce pays va demander au Parlement, présenter un projet de révision ou une proposition de loi de révision de la Constitution sur cette question-là. Merci ou une pétition, faire. On pourra, en ce moment-là, discuter de manière concrète. Mais aujourd'hui, on est dans la rumeur, dans les procès d'intention. Et moi, je ne veux pas me prononcer là-dessus.
Professeur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Goma, au Nord Kivu.
Ndebwe Augustin depuis Goma, province du Nord Kivu. L'homme politique congolais a longtemps prouvé qu'il vise toujours son intérêt au détriment de la nation congolaise. L'idée de Bouchab est bonne, mais pour prouver qu'il ne fanatise personne ou dévoiler son intérêt de voir son parti politique se maintenir au pouvoir, serait mieux que la modification de la constitution intervienne après l'affaire Banda en cours.
Il pose la question de l'opportunité de la publication de cet ouvrage.
Oui, mais monsieur Guimaté, voilà, je venais de vous le dire il y a un instant. Cet auteur dit même que lui, il est d'accord qu'on puisse réviser. Vous voyez qu'il y a qu'on puisse réviser, mais après le mandat du président de la République.
Voilà.
Ben, c'est ce qu'il lui dit.
Oui.
Donc vous voyez que au sein de la société congolaise, on peut trouver certains Congolais qui seraient favorables à ce qu'on révise. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Pour moi, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Écoutez, le Parlement de la République n'est pas saisi de cette question. Bon, le professeur Bouchab, en tant que scientifique, il a écrit un livre qu'on peut interpréter en disant, oui, voilà, il a fait telle phrase là, mais selon cette phrase, c'est qu'il suggérerait, bon, ça devient des analyses, des interprétations. Peu importe, ce n'est qu'une réflexion. Et donc, ceux qui ne sont pas d'accord qu'on puisse toucher l'article 220, c'est leur droit légitime, ils peuvent s'exprimer.
Merci.
Ceux qui veulent qu'on touche cet article, ils doivent le dire clairement. Ce n'est qu'un débat.
Merci, professeur.
Et donc, ça ne doit pas déclencher la guerre civile, ou des insultes, ou des attaques, ou des menaces contre les uns et les autres. Non, ça doit être un débat responsable,
merci, professeur,
digne, sur une question qui ne pose pas beaucoup de problèmes si on ouvre le débat là-dessus. Mais aujourd'hui, cette question, à mon avis, n'est pas à l'ordre du jour.
Merci, professeur Mathieu Kalele. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Kinshasa. Vous êtes aussi président du parti politique Front pour un nouveau type de Congolais, FNTC en sigle, parti de l'opposition. La Constitution, c'est pas une Bible, et donc elle est susceptible d'être révisée.
Oui, moi, non seulement que j'étais dans la salle lors du baptême, j'ai lu le livre, je l'ai décortiqué de la première à la dernière page. La conclusion que j'en ai tirée, c'est que c'est un livre extrêmement dangereux pour l'avenir de la démocratie au Congo. C'est une première chose. L'article 220 ne se limite pas qu'au problème de mandat. L'article 220 stipule que la forme républicaine de l'État, c'est-à-dire la démocratie, ne peut pas être revue. Le pluralisme politique, le pluralisme syndical, la durée de mandat et le nombre de mandats, l'indépendance de la justice, tout ça fait partie des matières non révisables auxquelles on ne peut pas toucher. Quand vous lisez le préambule, on dit qu'on a verrouillé ces articles pour éviter de retomber dans les erreurs de passé. Et quiconque y touche, qui nous ramène à la dictature, il est passible d'être accusé de haute trahison. Deuxièmement, ce n'est pas un problème de rumeur. En 2009, premier semestre, il s'était posé un problème de révision de la Constitution. Certains avaient nié et parmi les articles visés, il y avait déjà le 220. Finalement, ils ont fini par reviser en laissant en veilleuse le 220. Maintenant, ils reviennent. Troisièmement, M. Bouchab a dit clairement que ce livre était financé par le gouvernement. C'est un livre sur commande. Or, nous savons, tous les intellectuels sérieux savent, que les politiques utilisent assez souvent des intellectuels pour faire passer certaines idées. C'est le cas de la philosophie politique de Hegel, pour faire accréditer l'idée que tout pouvoir venait de Dieu, monarchie absolue de droit divin. C'est le cas de Rostov, les étapes de croissance économique, pour embarquer les nouveaux pays africains qui venaient d'accéder aux indépendances, de rester dans la voie capitaliste et de se détourner de la voie socialiste dans laquelle la plupart d'entre eux visaient.
Pour sûr.
Donc, ce livre-là à la veille de 2016. Nous savons qu'en Afrique, la plupart des chefs d'État, lorsqu'ils arrivent vers la fin de leur mandat, ils modifient la constitution pour pouvoir continuer. Aujourd'hui, on parle de 2016. Monsieur Boshab le sait très bien. Il a lancé ce livre pour préparer les esprits à une modification de la constitution.
Professeur,
c'est un livre dangereux.
Professeur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient des Mbandaka à l'Équateur.
D'accord.
Emilaba Sembe depuis Mbandaka dans la province de l'Équateur. Il convient ici de faire la distinction entre un ouvrage et une proposition de loi par la constitution révisée de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. En son article 23, consacré à toute personne le droit à la liberté d'expression et ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions par la parole, écrite et image. À mon avis, étant donné que cet ouvrage publié par le professeur Boshab n'est pas une initiative parlementaire, n'influence aucune modification de la constitution sur la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire et le pluralisme politique. Bref, le professeur Boshab a fait que publier les résultats de son travail en tant que chercheur et professeur d'université.
Professeur Kalele, pourquoi ces livres semblent vous gêner alors qu'il ne s'agit que des résultats d'un travail scientifique?
Le professeur Kalele a écrit beaucoup d'ouvrages. Je crois que tous les professeurs d'université sont d'abord et avant tout des chercheurs, ne sont pas des enseignants. Et lorsque on écrit, on a des objectifs précis à atteindre. On n'écrit pas pour écrire. Ici, c'est un livre, c'est un ouvrage qui porte sur une matière très sensible, politique. Et pourquoi les gens en parlent? Ils en parlent parce que il a un impact ou il est susceptible d'avoir un impact sur la marche de la société. Ce n'est pas un livre pour rire ou tout ça. Le prof a écrit. Le livre a été financé par le gouvernement et il défend la thèse de la modification de la Constitution. Il présente une condition comme une condition sine qua non pour la survie de l'État. Et l'article qui est visé, c'est le 220. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire aujourd'hui qu'au nom du changement, qu'au nom de la liberté, il faut que nous rentrions à la dictature?
Merci, professeur.
Je crois que le reste, là, c'est ce qui parle, là, c'est de la spéculation. On commence toujours par préparer les esprits à quelque chose avant que ça passe au Parlement. Et nous savons de quelle manière le Parlement est composé. La première révision, c'était encore sous Boshab quand il était au Parlement. Ça avait commencé...
Merci, professeur. On a compris votre idée, professeur. Professeur Bob Kabamba, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique. Vous êtes aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Le professeur Kalele dit, quand on écrit, on a des objectifs à atteindre. Et ici, ce qui semble gêner, c'est les moments choisis par le professeur Boshab pour publier son ouvrage. Vous savez que à ce moment-ci, la question sur la révision de la Constitution est une question taboue. Mais pourquoi il choisit ces moments pour publier cet ouvrage? A-t-il un objectif à atteindre, comme le dit le professeur Mathieu Kalele?
Merci beaucoup pour l'invitation de Radio Capi pour participer à cette émission au dialogue intercongolais. Avant de répondre à votre question, je voudrais dans un premier temps faire une clarification parce que je peux comprendre qu'on pensait que je suis fait partie d'une cellule chargée de réfléchir sur une révision constitutionnelle quelconque. Je voudrais simplement affirmer et confirmer que je ne fais partie d'aucune cellule ni ne participe à aucune réflexion sur la débat quelconque, je ne sais pas, à quelque niveau que ce soit, sur une révision constitutionnelle quelconque. Ça, c'est
mais je précise que vous êtes coordonnateur de la cellule
politologique à la Conférence centrale de l'Université de Liège. Alors, réponse à votre question, il y a deux choses qu'il faut bien se mettre en exergue. Il y a d'abord, dans un premier temps, un débat scientifique qui est lié sur le contenu, en fait, d'un livre, d'une publication. Et d'un autre côté, il y a un débat politique qui est lié à la question de l'opportunité. Alors, quand on prend en compte, effectivement, quand on est enseignant d'université, il faut bien se rendre compte qu'on a trois missions. On a d'abord une mission d'enseignement, ça veut dire enseigner et transmettre la connaissance au niveau des étudiants et au niveau de la dissémination de la connaissance scientifique, etc. On a aussi une deuxième mission qui est la mission de la recherche, c'est-à-dire, grosso modo, on entreprend de recherche pour pouvoir faire évoluer la société. Ensuite, il y a une troisième mission qui concerne ce qu'on appelle service à la communauté. Ça veut dire que chaque enseignant, chaque professeur d'université doit, de par ses enseignements, de par ce qu'il a, pouvoir donner un service à la communauté. Alors, quand on regarde ces débats, il y a ces deux débats-là. Il y a ce débat scientifique. Le livre, il est écrit 400 pages, fouillé, analysé, etc. C'est de la philosophie du droit qui pose des questions fondamentales liées à tout chercheur qui peut se les poser sans aucun problème. N'importe qui pouvait lire, écrire ce livre, ça ne poserait, de mon point de vue, ça ne susciterait pas autant de débats. Alors, vient la deuxième question que vous avez posée, qui est la question liée au débat politique. Il y a un fait que, il y a ce qu'on appelle la question de l'opportunité. La question, c'est que cette question de l'opportunité, tout scientifique, tout chercheur l'a. Quand on écrit, quand on veut publier quelque chose, il faut que ce qu'on publie soit lu, soit disséminé. Et tout chercheur, tout scientifique cherche toujours à pouvoir chercher à quel moment il doit publier son livre pour être sûr que ce livre soit lu, soit commenté et qu'il revienne à l'actualité. Ça, c'est le commun des mortels, nous tous comme chercheurs, nous tous comme professeurs d'université. Et c'est Bourdieu d'ailleurs qui le dit lui-même dans une de ses thèses. Et donc, lorsqu'il met même le titre de l'ouvrage, et bien sûr, quand on lit le titre tout de suite, ça s'interpelle par rapport à la question de l'opportunité. Puisque nous sommes en 2013 et nous allons aller dans un débat qui passionne tout le monde, sur lequel tout le monde s'attend. Et donc, de ce point de vue-là, il y a ces deux aspects sur lesquels il est important de pouvoir débattre. Il y a l'aspect donc scientifique et il y a l'aspect de l'opportunité. Et sur l'aspect de l'opportunité, là, de manière très claire, on écrit, c'est pour pouvoir vendre le livre, c'est pour pouvoir être lu, c'est pour pouvoir disséminer ce qui est dedans. Alors là, intervient maintenant une question fondamentale. Lorsque l'on aborde effectivement la question de la révision constitutionnelle, on le sait très bien que la révision constitutionnelle de 2011, qui a eu lieu en janvier 2011, n'a pas été faite par référendum. Ça a été fait par le Congrès. Congrès qui est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je doute fort que si, puisqu'on entre dans le débat lié à la modification ou bien à la révision de la Constitution, ça veut dire grosso modo, je doute très fort que, vu les conditions matérielles, vu l'état des finances de l'État congolais, que l'État congolais puisse arriver à organiser un référendum sur cette question. Et donc, je pense que ça ira de manière très claire au niveau du Parlement. Donc, ne déplaçons pas le débat. C'est-à-dire ici, si c'est pour la révision constitutionnelle, c'est les institutions, Sénat et Assemblée nationale. Si, là où, sur cette question où on peut avoir des interrogations du fait de l'auteur. L'auteur n'est pas n'importe qui, c'est vrai. L'auteur, il est qui? Il est secrétaire général d'un parti politique, le premier parti politique de la RDC, et de plus, a été ancien président de l'Assemblée, et de ce fait, en publiant ses livres, bien sûr, il profite de l'actualité, et je suis content d'entendre que beaucoup de gens ont lu le livre, mais aussi beaucoup qui en parlent, mais qui n'ont pas lu le livre, malheureusement.
Professeur, oui, et parlons de ces dispositions intangibles qui font débat.
Oui.
Nous avons la disposition sur la forme républicaine de l'État. Mm-hmm. À la page 338 de cet ouvrage, de l'ouvrage des profs Beauchab, il est dit « Voir la forme républicaine de l'État figurer parmi les dispositions que les constituants érigent en ligne intangible s'explique par la situation qui a prévalu lors du règne du maréchal Mobutu, où, en définitive, la loi et l'État obéissaient à l'absolutisme d'un seul homme. Cependant, la question qui demeure, est-ce la foi des citoyens dans les valeurs républicaines qui défend la République, entendue comme forme de gouvernement de l'État, ou la présence d'une disposition intangible? Donc, la foi des citoyens dans les valeurs républicaines suffit pour défendre la République, donc on n'a pas besoin de verrouiller certaines dispositions, selon le professeur Beauchab.
C'est pas vraiment ce qui est dit. Il pose une question, effectivement, il met une hypothèse par rapport à remettre en cause cette disposition de la forme républicaine.
Voilà.
De manière très claire, je veux vous le dire et vous le confirmer, Évariste Boshab a fait partie de l'équipe, au fait, qui a travaillé justement sur l'élaboration de la Constitution de 2006. Outre Évariste Boshab, il y a effectivement le professeur Kabuya, il y a le professeur Essambo, il y a toute une série d'autres personnalités, professeurs d'université de la faculté de droit de l'UNIKIN et professeur Mampouy aussi, qui ont participé à l'élaboration donc de textes de 2016. Et de manière très claire, il faut toujours analyser le texte en fonction du contexte dans lequel il est écrit. À ce moment-là, lorsqu'il est écrit en 2006, cet aspect de choses, vous devez vous rendre compte qu'on doit tenir compte, lorsqu'on écrit un avant-projet de constitution, on tient compte non seulement de l'histoire constitutionnelle, mais aussi du contexte politique dans lequel on écrit. De manière sans ambiguïté, vous devez vous rendre bien compte que cette disposition a été mise là justement pour éviter de ne pas retomber dans les travers qui ont prévalu en 1960, en 64, en 67, en 74, etc., etc., qui ont fait en sorte que l'institution, le pays RDC, a évolué et d'une façon qui ne correspondait pas aux enjeux qui ont été délimités à ce moment-là.
Ce genre de disposition ne se justifie pas aujourd'hui.
Ça se justifie et ça continue encore à se justifier. Pourquoi ? Parce que pour la bonne et simple raison que nous sommes dans un contexte international qui impose et qui oblige de manière très claire à ce qu'il puisse y avoir des règles d'alternance, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une alternance au niveau du pouvoir, une alternance au niveau du sommet de l'État. C'est pas pour rien qu'il y a des élections, c'est pour pouvoir arriver qu'il y ait une certaine alternance et qu'il y ait un enjeu politique sur lequel les gens doivent de manière très claire arriver à proposer des projets de société à la population. Donc oui. Pour ma part, de manière très claire, sans ambiguïté, l'article 220, dans le contexte qui a été écrit, c'était justement pour verrouiller de manière très claire qu'il ne puisse pas y avoir ni modification de nombre de mandats, ni la forme républicaine. Et puis vous oubliez encore une autre dimension qui est hyper importante, qui concerne justement la forme de l'État. Pourquoi les provinces sont ce qu'elles sont actuellement ? Pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas non plus réduire les pouvoirs des provinces dans le cadre de la révision constitutionnelle. Et donc tout ça a été fait de manière à ce que, en fonction de ce qu'on écrit et fait adopter au peuple congolais, que cela soit, reste comme un ciment, comme un fondement de l'institution de l'État congolais tel qu'il doit être réagi, tel qu'il doit être régi dans les années et pour la prospérité du peuple congolais.
Merci professeur. Professeur Tshibang Kalala, on parle ici du nombre et la durée des mandats du président de la République. Dans cet ouvrage du professeur Boshab, il évoque l'article 70 de la Constitution, alinéa 1. Il dit ceci, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cependant, ça c'est Boshab qui poursuit, il relève des inquiétudes. Il dit, alors que dans les mêmes conditions, l'article 198 de la Constitution dit ceci, les gouverneurs et vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux. Curieusement, parmi les principes intangibles contenus à l'article 220, cette limitation n'est pas reprise. Ça, c'est la première incohérence selon lui. La deuxième incohérence, si dans l'intérêt de promouvoir l'alternance et de renouveler la classe politique, le meilleur moyen d'y parvenir serait la limitation des mandats politiques, la justice, l'équité et la logique devraient militer en faveur de l'égalité de tous les mandataires. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que ces principes-là devaient être étendus à tous les mandataires de la base au sommet, pas seulement s'arrêter au seul président de la République. La limitation des mandats, en fait, les principes, le fait de verrouiller les articles sur la limitation des mandats. On ne devait pas seulement verrouiller l'article sur la limitation des mandats du chef de l'État, mais on devait verrouiller l'article sur la limitation des mandats de tous les mandataires, de la base au sommet.
Oui, monsieur, mais c'est son avis personnel. C'est lui qui doit, il explique pourquoi il demande cela. C'est un avis tout à fait personnel. Et si un jour il pourrait peut-être rencontrer dans la société congolaise des gens qui peuvent penser comme lui, il pourra leur modifier la constitution pour que ce qu'il propose soit réalisé. Mais ça, ce n'est qu'un avis personnel d'un scientifique, d'un professeur d'université. Ça ne pose pas de problème, ça ne doit même pas susciter des débats. S'il dit, bon, et encore une fois, c'est lui qui serait encore mieux placé pour bien traduire sa pensée. Parce que là, on est dans des interprétations, dans des analyses, dans des commentaires. C'est encore lui, l'auteur de ces phrases-là, qui est mieux placé pour donner le fond de sa pensée. Mais je pense, en principe, si on a limité la durée des mandats du président de la République, bon, c'est clair dans la Constitution, Mais pour le gouverneur de province, c'est dit, mais ce n'est pas aussi verrouillé dans l'article 220. On aurait pu ajouter une phrase là-bas pour dire le mandat du président, par exemple, des gouverneurs de province, etc. On pouvait le dire. Bon, mais écoutez, ça, ce sont des problèmes de rédaction, la constitution de la légistique. Pourquoi on a laissé ça là-bas? On aurait pu ajouter aussi. Ce sont des problèmes de la qualité du texte de notre constitution que certains penseurs ont critiqué en disant que ça a été rédigé dans la précipitation et puis on n'a pas essayé de bien faire la concordance des choses. Bon, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais son avis, c'est son avis personnel. Bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Bon, il y en a qui peuvent l'appuyer en disant oui, on peut le faire. D'autres peuvent dire oui, mais écoutez, ce n'est pas nécessaire. Dès lors qu'on a dit que c'est renouvelable une fois, bon, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller surcharger l'article 220. Mais peu importe, ce n'est qu'un avis personnel. Il engage que lui-même.
Votre avis par rapport à ça?
À quoi? Par rapport à savoir qu'on aurait pu mettre dans l'article 220.
Voilà.
Écoutez, c'est indifférent. On a déjà été clair déjà dans l'article 197 ou 198. Ils ont un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, c'est suffisant. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller alourdir le texte de l'article 220 pour ajouter autre chose. Parce que s'il faut aller dans cet article 220, ça signifie qu'il faut réviser l'article 220. Pour y ajouter autre chose. Tu comprends? Alors qu'on nous a dit que cet article, on ne peut pas y toucher. Donc, s'il faut y toucher, et donc, il faut le réviser pour y ajouter d'autres choses. Et donc, ça sera encore un débat. Alors, je pense que tel que c'est rédigé là, c'est suffisant, c'est renouvelable une seule fois. Peut-être que pour le chef de l'État, si on a voulu limiter la durée des mandats et le nombre de mandats et mettre cela à l'article 220 pour dire qu'on ne puisse pas y toucher, je crois que le professeur Kabamba l'a dit. Bon, on avait le passé récent de Mobutu qui était là depuis 65, qui modifiait les choses. Il était président à vie, etc. Bon, c'était un petit peu la mode. Hein. À l'époque, on a dit oui, pour le numéro un du pays, pour éviter qu'on reste encore dans une dictature qui va nous prendre 30 ans, 40 ans, du moins, pour le numéro un, etc., lui, on doit verrouiller ça complètement et dire qu'on ne peut pas changer. Donc, c'est un choix politique qui a été fait par le constituant de 2006. Mais on peut toujours continuer à discuter.
Merci. Professeur Mathieu Kalele, par rapport aux incohérences que relève le professeur Boshab, pourquoi c'est seulement l'article sur le mandat du chef de l'État que l'on doit verrouiller, à votre avis?
Oui, mais ça, c'est des arguties d'une argumentation qui peut se réduire à ceci. Comme on n'a pas délimité pour les autres, pourquoi délimiter pour le chef de l'État? Ça signifie au clair que l'auteur du livre plaide pour une présidence à vie. Il ne faut pas être savant pour le comprendre. Il plaide pour une présidence à vie et les gens disent non. Ça, c'est nous faire marche arrière. Je dis que moi, je lis le livre, contrairement au professeur Tshibangu-Kalala, qui n'a été que dans la salle. J'ai lu le livre du début à la fin. Le livre a cette thèse-là. Il faut modifier les dispositions intangibles. Et une de ces dispositions, c'est le nombre des mandats d'un président de la République. Il faut supprimer ça pour que le président ou celui qui est là-bas puisse se présenter autant de fois qu'il veut. C'est comme ça que nous vivons dans beaucoup de pays africains. Lorsque le professeur Tshibangu dit que c'est son avis personnel, bon, je crois qu'il faut mettre un bémol. Vous savez que aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays là-bas, il y a des think tanks, des boîtes à idées qui inspirent des hommes politiques où ils puisent les idées. Vous savez aussi très bien, il existe, même chez nous ici, les éditions tendance actuelle qui s'appelaient jadis Nouveaux Horizons. Vous pouvez les consulter au Centre culturel américain. Qui écrivent là-bas? Qui orientent la politique des États-Unis? C'est des grands intellectuels et des professeurs d'université. Aujourd'hui au Congo, on parle de balkanisation. Le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines actuel, John Carson, Il est allé exprimer ses idéaux dans un think tank qui inspire les démocrates et il dit clairement que on va balkaniser le Congo, ça ne sera pas acceptable, mais il faut y aller de manière très subtile. Donc il puise les idées chez des grands intellectuels pour des applications politiques.
Merci
on ne peut pas dire que c'est un avis personnel qui n'aurait pas d'impact sur la société.
Merci
on n'écrit pas pour ça, pour la maison, on écrit pour que les idées circulent. La Révolution française, c'est au bout, c'est après pratiquement un siècle d'idées.
Merci pour
les indépendances africaines et tout ce qu'on appelle la négritude, c'est les idées d'abord.
Merci.
La Révolution russe, c'était d'abord les idées. On a préparé et puis il y a eu matérialisation par le changement de régime politique.
Merci professeur, on a compris. Professeur Bob Kabamba, toujours par rapport aux incohérences que relève le professeur Évariste Boshab dans la Constitution, il demande à la fin pourquoi le dernier mot ne devrait-il pas venir au peuple qui sanctionne positivement ou négativement chacun suivant les services rendus, comme pour dire pourquoi ne pas laisser chacun se représenter autant de fois qu'il pourra, car en définitive c'est le peuple qui a les derniers mots. Voilà.
Merci beaucoup. Il y a d'abord, je voudrais revenir sur l'article 198 parce que là il y a mal donné. Comparer effectivement un mandat du chef de l'État avec les mandats des députés, avec les mandats des gouverneurs ainsi que des autres. Ça, je pense que le professeur Bouchard est allé un peu trop vite parce qu'il oublie pourquoi est-ce qu'on a mis l'article de 198. Pour la bonne et simple raison qu'il y a une distinction qu'il y a à faire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est responsable devant la population alors que le Sénat représente les provinces. Et dans la même idée, on avait bien dans le texte de la Constitution, c'est pour que le Sénat soit inamovible. Ça veut dire que lorsqu'il y a, par exemple, des problèmes liés à la gouvernance et que l'on dissout, par exemple, l'Assemblée nationale, mais que le Sénat ne soit pas touché, puisque simplement, là, le Sénat tire sa légitimité au niveau des provinces. Et faire la limitation, donc, des mandats au niveau plus bas, ça veut dire au niveau local, au niveau provincial, au niveau Assemblée nationale, au niveau sénatorial et à d'autres niveaux, ne permet pas nécessairement, comme pour le chef de l'État, ce n'est pas la même fonction, ça n'a pas la même représentativité. Et donc, lorsque l'on est élu au niveau local, on n'est pas dans la même dimension, dans la même catégorie et dans le même niveau qu'au niveau national. Dans tous les pays, dans beaucoup de pays du monde, effectivement, il y a cette différence entre, d'une part, les mandats au niveau représentation nationale et au niveau de la présidence. Alors, revenir maintenant à votre question.
Oui, pourquoi ne pas laisser chacun se présenter au plein des fois?
Il pose la question.
En
fait, c'est un débat scientifique qui existe en droit constitutionnel. En fait, c'est la question de ce qu'on appelle du pouvoir constituant. Qui est le pouvoir constituant? Le pouvoir constituant peut, en fait, faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire, vous savez, je vais vous donner un bête exemple. Vous avez aujourd'hui la question qui s'est passée en Égypte. C'est-à-dire, grosso modo, les militaires ont suspendu, effectivement, l'application de la constitution qui a été adoptée par référendum. Normalement, dans la notion même du pouvoir constituant, une telle chose est inimaginable ou bien impossible. Mais lorsque l'on pose la question liée, est-ce que les militaires, par exemple, égyptiens, sont en mesure de pouvoir liquider la constitution qui a été adoptée par référendum et refaire une nouvelle constitution dans le contexte de l'Égypte actuelle, la réponse, elle est oui. Ça veut dire qu'on peut balayer cette constitution-là qui a existé, qui a été adoptée par référendum et on met une nouvelle constitution. C'est tout le débat qu'il a mis là sur la question du constituant. Mais il confond la question du constituant et la responsabilité des gens devant leur assemblée. Un gouvernement est responsable devant son assemblée, il est sanctionné par son assemblée, puisque nous sommes dans une forme de démocratie représentative. Alors, ne mettre la même chose, le même niveau, la question de la représentation démocratique, et au niveau du constituant, là, je pense qu'il y a un mal donné à ce niveau-là, qu'il faut faire bien la part des choses, la responsabilité. Matata, par exemple, il est responsable devant l'Assemblée. Il rend des comptes devant l'Assemblée qui représente la nation congolaise. Il est sanctionné, si Matata peut être sanctionné, il sera sanctionné par l'Assemblée. Et le constituant, le peuple ne va pas se muer en constituant dans des contextes qui ne sont pas bien définis et bien balisés au niveau de textes juridiques.
Merci, professeur Tibang Kanala. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Kananga Kasai Occidental.
Maître Adrien Ilobakwe Ferro à Kananga, au Kasai Occidental. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est opportun à ce moment précis de penser à une quelconque révision de la Constitution lorsque nous savons que cette question risque de diviser davantage la population congolaise au moment où tout le monde veut avoir une cohésion nationale?
Oui, voilà, c'est on publie l'ouvrage au moment où tout le monde parle cohésion nationale.
Oui, c'est vrai. L'auditeur de Kananga soulève la question de l'opportunité. Évidemment, le professeur Gabamba l'a dit à un moment donné, pour un scientifique qui prépare un ouvrage, il veut le mettre sur le marché le moment où il estime que bon, le marché est favorable, il peut vendre son produit intellectuel, etc. Mais il y a aussi cet aspect de promotion de l'ouvrage. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect politique. Est-ce que ce produit peut créer des vagues dans la société? Et nous avons, vous avez suivi les déclarations du professeur Galilée. Donc, ça provoque des vagues. C'est un problème de l'opportunité du moment, compte tenu du fait que la question soulevée n'est pas qu'un problème purement scientifique, c'est un problème aussi politique. C'est vrai qu'il peut se poser de problèmes d'opportunité du moment. Est-ce que c'était opportun de mettre cet ouvrage sur le marché pendant ce temps-ci? Les uns peuvent dire oui, que c'était opportun. Les autres vous diront que non, c'est pas opportun, c'est prématuré, etc.
Votre avis?
Et donc, mon avis personnel est que pour un scientifique qui fait son travail de réflexion et de recherche, eh bien, c'est lui qui apprécie le moment qu'il faut pour mettre son produit sur le marché.
Voilà. Professeur, voilà. Nous allons conclure parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Et au-delà des considérations liées au contexte politique du moment, le mérite de l'ouvrage du professeur Bouchab ne serait-il pas celui d'ouvrir une nouvelle piste qui peut être exploitée par les scientifiques?
Oui, écoutez, c'est une réflexion comme je le dis. Vous savez, il y a 48 heures, Guy Maté, devant ce micro, moi-même je proposais la révision de la Constitution, mais une révision technique, purement technique, pour régler un problème réel qui se pose dans notre pays aujourd'hui, le problème de dysfonctionnement des institutions. Je proposais qu'on puisse réviser la Constitution, mettre une disposition spéciale pour écourter le mandat des futurs sénateurs, pour dire que les prochains sénateurs, députés, professeurs, les autres, leur mandat va expirer en 2016 pour remettre les compteurs à zéro. C'est une idée, c'est une révision technique. Donc c'est pour dire que chaque fois qu'il y a une idée qui est sur le marché intellectuel,
merci,
eh bien, on peut s'emparer de cette idée, l'interpréter dans tous les sens.
Merci.
Mais surtout dans le sens favorable pour le redressement de la nation.
Merci,
donc
professeur.
La question soulevée par le professeur Bouchab suscite des débats, et c'est bien qu'il y ait ce débat.
Professeur Kalele, le mérite de cet ouvrage, n'est-ce pas, d'ouvrir une piste que les scientifiques peuvent exploiter?
Non. Mais je vous ai dit que mon point de vue, que c'est un livre dangereux. Le professeur Bouchab, qui est l'auteur du livre, il était président de l'Assemblée nationale. Il a cautionné, fait cautionner la révision de la Constitution à ce qui concerne les tours, les scrutins.
Malheureusement, on est à la fin de l'émission. Oui, professeur Bob Kabamba, un mot pour la conclusion.
Juste pour dire que le professeur Bouchab a réussi effectivement à pouvoir avoir un débat, avoir une publication qui suscite le débat, et c'est ça le rôle de la scientifique, c'est de pouvoir amener la matière qui suscite le débat, et on peut espérer que le débat va continuer aussi bien au niveau scientifique qu'au niveau politique.
Merci, c'est la fin de cette émission. Bonne suite des programmes sur Radio Okapi.